Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vous remercie d'être rendu disponible pour ce premier conseil municipal de l'année. Je vous rappelle quelques règles. Conseil municipal est public. Tout habitant et toute personne peut y participer, à condition de ne pas en troubler le bon fonctionnement. C'est la loi qui le prévoit. Donc seuls les élus sont autorisés à intervenir et à prendre la parole. Donc on va commencer par le débat d'orientation budgétaire, qui est une obligation légale et qui est en fait un conseil à part entière. Et je vais commencer donc à passer la parole à Michel Bisaccia.
Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc le débat d'orientation budgétaire... On va commencer par les rappels réglementaires, parce que le débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire de la procédure des collectivités locales, et on doit donc, ça permet d'informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité, et ceci, ça doit avoir lieu un mois avant le conseil municipal, et ça permet d'avoir déjà une première vision de la situation financière et d'éclairer un petit peu pour ensuite, lors de la prochaine réunion de conseil municipal, voter le budget primitif de la commune. Donc c'est une étape obligatoire. Dans les communes de plus de 3 500 habitants au-delà, en dessous, on ne le fait pas parce que ce sont souvent des budgets beaucoup plus modérés. Et bien entendu, si on ne le fait pas, toutes les délibérations qu'on pourrait prendre après pour approuver le budget primitif seraient caduques et illégales. Alors, ces rapports, ils sont très réglementés, ils doivent comporter des informations essentielles et qui doivent y être. Donc, effectivement, toutes les orientations budgétaires envisagées par la commune sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, et ce, en fonctionnement comme en investissement. Je vous rappelle que les budgets sont composés de deux sections, le fonctionnement qui permet de faire vivre la commune, l'investissement qui permet de construire, d'acheter, en clair, d'augmenter le patrimoine de la commune. Donc on doit préciser les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget. C'est ce que vous verrez ce qu'on vous mettra, ce que vous verrez après dans les slides d'après, en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification et de subvention, et les principales évolutions qui sont relatives entre les relations financières entre la commune, donc Saint-Priest-en-Jarret, et l'établissement public de coopération intercommunale dont on est membre, pour nous, c'est bien entendu Saint-Étienne Métropole, et il y a effectivement des slides qui vous évoquent la situation financière de Saint-Étienne Métropole. On présente aussi des engagements pluriannuels, c'est-à-dire ce dont on a parlé et qu'on vous présentera la semaine prochaine, le 1er mars, lors de notre réunion publique, c'est-à-dire notre plan prévisionnel d'investissement, le plan de programmation d'investissement, où on va vous expliquer sur les 5 années de mandat jusqu'en 2026 quels sont les investissements que la commune prévoit de lancer. Il y a aussi des informations relatives, bien entendu, à la dette, puisque toute commune ne peut effectivement envisager des travaux sans faire des emprunts. Et donc, on vous explique la structure et la gestion de la dette et le profil de l'encours de la dette pour, effectivement, l'année qui arrive, c'est-à-dire pour l'année 2022. Voilà. Et on doit vous présenter l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne et de l'endettement jusqu'à la fin de l'exercice que vous verrez plus tard. Alors, les orientations budgétaires de cette année, bien entendu, et on le répète depuis de nombreuses années, et malheureusement c'est récurrent et on essaye d'améliorer, et pour l'instant on le fait assez régulièrement, compte tenu de la situation financière qui est assez contrainte, et puis des nouvelles charges qui nous sont arrivées dues à la pandémie, le budget 2022 sera établi sur des hypothèses. Alors ce sont des hypothèses, bien sûr, parce que je vous rappelle que le budget primitif est un budget prévisionnel, c'est-à-dire qu'on prévoit des sommes en recettes, des sommes en dépenses, et qu'on réajuste en fin d'année en fonction des besoins ou des recettes supplémentaires qu'on a reçues. Donc, on va essayer de maîtriser les dépenses de personnel, hors les décisions d'État. Alors, ce qu'on appelle les décisions d'État, ce sont les décisions qui nous sont imposées, surtout sur la gestion du personnel, mais qui influent directement sur nos finances. Par exemple, cette année, on va avoir la réforme de la catégorie C. La catégorie C va encore être une nouvelle fois réévaluée. On a le passage, par exemple, en catégorie B d'une catégorie professionnelle, ce sont les auxiliaires de puériculture. Donc, qui dit passage en catégorie supérieure dit bien entendu augmentation de salaire, et c'est bien pour elle, mais ça a un coût pour la commune. Et puis, bien entendu, la prime énergie, vous savez, les 100 euros qu'a promis le gouvernement pour compenser les augmentations d'énergie. Cette prime énergie, elle nous est remboursée, mais elle va apparaître à la fois en dépenses et à la fois en recettes. C'est-à-dire qu'on va les voir dans les charges de personnel, ce qui va nous augmenter les charges de personnel, mais on les verra bien entendu dans les remboursements, dans les recettes. Donc voilà, on va essayer de maîtriser aussi les autres coûts de fonctionnement. Par exemple, pour les dépenses de personnel, on va essayer de prévoir à peu près un 20%, un 25% d'augmentation par rapport à l'année dernière, dû un peu à tout ça. Plus ce qu'on appelle le GVT, que je vous rappelle toutes les années, c'est le glissement vieillesse technicité. C'est-à-dire que toutes les années, les agents prennent des points, changent d'indice, réussissent des concours, et ça fait augmenter la masse salariale mécaniquement, tous les ans, obligatoirement. Voilà. Donc on va essayer de se maintenir à 1,20 d'augmentation. On va essayer aussi de maîtriser les autres coûts de fonctionnement. Alors là aussi, on est sujet, comme vous, comme nous, à l'inflation, c'est-à-dire que l'augmentation des tarifs de l'énergie, du gaz, de l'électricité et du carburant va nous impacter directement, puisque bien entendu, on se chauffe, on fait tourner nos voitures, on fait marcher nos camions, et malheureusement, on n'arrive pas encore à les faire tourner avec de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On va essayer de maintenir quand même le fonctionnement dans une augmentation raisonnable de 1,98%. Sachant que nos recettes vont augmenter d'à peu près 70% sur l'année 2022. Voilà. Mais je répète bien que ça, c'est un budget prévisionnel. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance...
Elles ne vont pas augmenter de 70% de recettes.
Non, de 0,70%. Non, 70%, ça serait la fête. Pardon, de 0,70%. On a toujours tendance, quand on bâtit un budget, à prévoir une dépense un peu plus importante qu'on pourrait avoir, et une recette un peu moins importante. Ce qui fait qu'on risque moins d'avoir de mauvaises surprises, parce que je vous rappelle que les collectivités sont tenues, et c'est une obligation, de présenter un budget en équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que nos dépenses et nos recettes soient du même montant. Voilà. Donc quand on fait comme ça, quand on bâtit un budget comme ça, c'est un peu chez vous, comme chez vous, vous avez plutôt tendance à dire, j'ai les travaux, allez, mettons qu'ils vont me coûter 5 000 euros, allez, je vais en mettre 6, parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir des mauvaises surprises. Voilà. Et puis, bien entendu, on continue notre réflexion sur l'évolution de la fiscalité locale. Cette année, l'État nous a annoncé une évolution des bases de 3,4%, ce qui me semble énorme, sachant que ça fait plusieurs années que ça stagne entre 0,6 et 0,9. On va être optimiste, on va dire que ça va être la réalité, ça sera tant mieux. Et on va certainement prévoir une très légère augmentation du taux de taxe foncière bâtie. Vous savez qu'on ne peut plus jouer sur la taxe d'habitation, puisque maintenant ça a été supprimé et que ça nous est remplacé, nous, communes, par une compensation d'État.
Donc pour la taxe foncière bâtie, on n'a pas encore... fait de projection. Vous savez qu'on a augmenté très sensiblement en 2020, également l'an dernier. Donc là, on va voir, parce qu'il y a également, et on en parlera après, l'augmentation de la part métropolitaine sur la taxe foncière. Et l'idée, c'est d'augmenter en gros de 1%, pas de 1 point, de 1%, ce qui reviendrait à peu près à une augmentation de 0,4 points. Donc on va voir, on fait des simulations, mais on attend la validation de l'actualisation des bases pour ensuite vous proposer un ajustement sur la taxe foncière bâtie, avec un autre enjeu, vous le savez, vous l'avez compris. On a eu le vécu derrière nous de la disparition, enfin de la stagnation de la taxe d'habitation à un instant T. On ne sait pas ce que le futur gouvernement, issu des urnes à l'été, mettra en place comme réforme de la fiscalité, mais il faut absolument qu'on soit sur un niveau de taxe foncière satisfaisant pour ne pas être encore pénalisé, comme on l'a été lourdement, très lourdement, sur la taxe d'habitation.
Voilà. Alors, bien entendu, on est toujours soumis au contexte un peu particulier du fait de la crise sanitaire. Donc, bien entendu, ça continue à impacter nos activités économiques, médicales, sociales, et ça aura bien entendu des effets à court et moyen terme. La détérioration des finances publiques, on vous en parle assez dans les journaux, et vous le savez, ça devrait normalement se ralentir en 2022. l'année 2020, bien entendu, puisque c'était le premier confinement qui a été très strict. On a eu un recul historique de moins 8% du budget de l'État, mais on a eu un rebond en 2021, car effectivement, dans la mesure où au printemps et en été, tout a été rouvert, bien entendu, on a su que le pouvoir d'achat des ménages était important et que la capacité productive de l'économie était un peu repartie. Ça a un petit peu compensé la perte qu'il y avait eu en 2020. Donc, bien entendu, cette dynamique, elle est toujours soutenue par les mesures du gouvernement, le plan France Relance, qui continue à soutenir l'emploi et l'activité. Mais on verra plus tard que, bien entendu, toutes ces mesures ont un coût et des conséquences qui peuvent être importantes au niveau de la France. Cependant, j'ai mis, bien entendu, que ces perspectives et ce léger optimisme restent, bien entendu, conditionnés à l'évolution de la pandémie, parce qu'on ne sait pas. Bon, à l'époque, le variant Omicron venait d'apparaître et nous mettait dans une situation compliquée. Donc, on ne sait pas, et personne n'est en capacité de dire comment ça va pouvoir évoluer, mais c'est de toute façon toujours un peu compliqué. Alors, quand on présente un DOB, on part des perspectives économiques du plus important, c'est-à-dire la zone euro, la France, Saint-Étienne Métropole, et après on parle des capacités financières de la commune. On va balayer très vite, hein, parce que bien entendu, c'est pas nous, nous n'avons aucune influence sur ces finances-là, heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas. Donc on va balayer très vite. Les confinements donc ont été plus longs et plus stricts en zone euro, ce qui fait que bien entendu notre croissance a redémarré plus tardivement. Elle s'est poursuivie à des rythmes bien différents selon les pays et elle s'établissait au troisième trimestre 2021 à 2,2%. Alors, grâce aux allègements de contraintes de déplacement, c'est ce qu'on disait sur l'année 2021 pour le printemps et l'été, le tourisme et les activités ont rattrapé une partie des pertes qu'ils avaient subies au premier semestre puisqu'on avait connu un autre confinement début 2021. Donc l'industrie européenne, on le sait, repart sur de bonnes bases. Il a engrangé des commandes importantes, mais vous l'avez entendu aussi dans les informations. La pénurie de certains composants et les difficultés d'approvisionnement risquent bien entendu de casser un peu cette dynamique et de ralentir cette croissance. Donc c'est ce que je mets après, les goulets d'étranglement, une hausse importante du prix de l'énergie, bien entendu. Ça a accéléré l'inflation qui s'est révélée beaucoup plus forte qu'on le pensait. 4,1% en octobre 2021 contre seulement 0,9% en janvier 2021. Et on sait, malheureusement, en passant à la pompe quand on en a besoin et avec tout ce qu'on entend dans les journaux, que l'inflation est bien partie et que ce qu'ils estimaient peut-être très temporaire ne sera peut-être pas autant qu'on pouvait le penser. Et les banques centrales des pays du G7 ont maintenu des conditions monétaires intéressantes qui demeurent très favorables, c'est-à-dire qu'on a toujours des taux d'emprunt qui sont encore et qui restent historiquement très bas. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Monsieur le maire pour la France.
Donc pour la France, on constate une amélioration de l'activité économique. L'économie française a été durement touchée par la pandémie Covid-19, avec une chute historique de la croissance de 8% en 2020. Grâce à la progression de la vaccination, des restrictions sanitaires ont pu être levés en 2021, favorisant la reprise de l'activité. Cette dynamique s'explique par un rebond de la demande intérieure dans les secteurs de l'hôtellerie, restauration, des services et surtout une progression de la consommation des ménages. Dans ce contexte favorable, la croissance au quatrième trimestre 2021 pourrait approcher les 1%, mais je crois que c'est légèrement supérieur. Les chiffres qu'on avait au moment où on a établi le document. Certains points de vigilance sont à prendre en compte. Le rythme de vaccination varie fortement d'une région du monde à une autre, ce qui favorise l'émergence de nouveaux variants. De nombreuses entreprises françaises font face à des difficultés d'approvisionnement, comme l'a évoqué Michel au niveau européen, ce qui constitue un obstacle à la production et affecte certaines branches de l'industrie, notamment le secteur automobile. Les résultats des entreprises françaises sont bons. Des mesures de soutien mises en place par le gouvernement, notamment le Fonds de solidarité, la prise en charge du chômage partiel, les prêts garantis par l'État, ainsi que le rebond de la demande ont permis de les protéger. L'inflation des prix à la consommation a atteint 2,6% en octobre 2021 contre 1,5% en janvier, expliquée par la hausse des prix de l'énergie, le rattrapage des prix des services et par le prix des biens manufacturés. L'inflation s'est avérée plus élevée que prévu, et des doutes persistent sur son caractère transitoire en raison de la pénurie de biens, des niveaux élevés des prix de l'énergie et de leur risque de rupture d'approvisionnement. L'inflation atteindrait 1,3% en 2022, mais c'est un chiffre beaucoup plus important qui est aujourd'hui annoncé puisqu'on parle de plus de 3,5%. Un déficit public à moins 8,4% du produit intérieur brut en 2021, il était de moins 9,1% en 2020, et qui devrait s'établir en 2022 à moins 4,8%, bien au-delà du seuil requis théorique des 3%. Les diverses mesures d'urgence et de soutien à l'économie et les moindres recettes fiscales ne permettent pas de poursuivre la trajectoire d'une baisse de la dette publique. Celle-ci atteindrait non pas 114, mais 118% du PIB en 2022, soit 24 points de plus par rapport à l'objectif prévu. Pour Saint-Étienne Métropole, Saint-Étienne Métropole doit poursuivre son projet de transformation du territoire métropolitain afin d'offrir la meilleure qualité de vie à ses habitants. Oui, il manque un E à la place du S, mais bon, c'est pour annoncer le tour de vis. Hein, c'est ça. Donc, la meilleure qualité de vie à ses habitants tout en promouvant l'activité du territoire. En 2021, la métropole s'est engagée dans le plan de relance métropolitain dont nous avons déjà à plusieurs reprises débattu, d'un montant de 320 millions d'euros destiné à soutenir la reprise économique et à dynamiser les politiques prioritaires du territoire et qui sera au bénéfice des équipements communaux et au service de la population. Pour notre commune, cela se traduit par une possibilité de financement à hauteur de 50% de trois projets d'investissement dans la limite de 3 millions d'euros. Et comme on l'a déjà dit, aller chercher 3 millions d'euros à Métropole, ça veut dire que nous, mairie, il faut qu'on mette 3 millions d'euros également sur la table. À cela s'ajoute le pacte financier et fiscal qui prend en compte le plan de relance et poursuit deux autres objectifs majeurs. Maintenir le niveau de solidarité financière de la métropole envers ses communes membres et trouver les moyens de réaliser le projet de transformation du territoire métropolitain. Afin de garantir la fiabilité financière de ces projets, Saint-Étienne Métropole doit trouver de nouvelles ressources complémentaires. La fiscalité de Saint-Étienne Métropole sera relevée sur plusieurs taxes, et en particulier sur la taxe foncière payée par tous les propriétaires habitant sur le territoire métropolitain, qui passera de 1,37% à 2,6% en 2022. Toutes les recherches de financement extérieur seront mobilisées, dotations de soutien, recherche de subventions, etc. De plus, une gestion très rigoureuse et maîtrise des dépenses de fonctionnement seront poursuivies, tout en tenant compte des charges supplémentaires générées par la mise en service de nouveaux équipements et également par la crise Covid toujours présente.
Voilà, donc après avoir balayé donc la zone euro, la France et Saint-Étienne Métropole, on va revenir à notre commune de Saint-Prié et on va vous présenter les résultats de 2021. Parce qu'effectivement, je vous rappelle que quand une année se termine, on clôt les comptes on présente à la collectivité, ça se votera, excusez-moi, je ne trouvais plus le mot, au mois de mars 2021, en même temps que le budget primitif, ce qu'on appelle le compte administratif, c'est-à-dire c'est l'état arrêté des finances au 31 décembre de l'année N-1. Voilà. Donc sur 2021, on a constaté une hausse des recettes fiscales, ce qui est normal puisqu'on a augmenté les impôts, on a augmenté le taux de la taxe foncière, et bien malheureusement, une stabilité des dotations. Alors, l'évolution et la structure des recettes, donc je fais toujours un comparatif avec les années antérieures, parce qu'une année prise toute seule, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Dès que je vais arriver à tourner ma page, on ne peut même plus mouiller son doigt pour le faire, avec le masque, je m'achète une éponge. Voilà. Donc, vous voyez que cette année, on a eu un total de 8 689 000 euros de recettes, on est dans les recettes, soit une augmentation de 1,94%. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On a eu, vous voyez, sur les autres produits réels, ce sont en principe tout ce qui concerne les dotations et les dotations, par exemple, qu'on peut avoir au niveau de... pour le centre de loisirs de la caisse d'assurance familiale, de la caisse d'allocation familiale. Et il rentre là-dedans aussi tous les produits que les gens payent à nos services, c'est-à-dire ce que les gens payent à la cantine, ce qu'ils payent à la crèche, ce qu'ils payent au centre de loisirs. Tout ça rentre là. Donc on a eu une augmentation. Alors, elle paraît très importante par rapport à 2020, mais il faut bien rappelez-vous que 2020, on a quand même été fermé pendant 4 mois et que donc, effectivement, en 2020, on avait eu une hausse des recettes qui était très modérée parce qu'effectivement, eh ben, on avait des services qui étaient fermés, donc on ne pouvait pas avoir de recettes. On a eu moins de dépenses, mais on avait moins de recettes. Vous voyez que sur la DGF et les autres dotations, une stabilité, c'est même encore une légère baisse. Et vous voyez qu'au fil des années, ça baisse tout le temps. On est passé de 1396 pour arriver à 1022. On avait encore 1128 en 2020, qu'on a reçu moins. Et ça, c'est de toute façon quelque chose qui est un peu inéluctable parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure, les dotations sont de plus en plus contraintes. Et les ressources fiscales, effectivement, qui ont augmenté, puisqu'elles sont passées de 6823 à 6971, dû bien entendu à la hausse de la taxe foncière, mais comme on avait expliqué l'année dernière, qui était incontournable pour pouvoir équilibrer notre budget.
Si on regarde par rapport à 2019, en définitive, c'est la hausse de la fiscalité locale qui nous permet d'avoir des recettes légèrement d'augmentation, 2%. Sinon, par rapport à 2019, les autres produits diminuent très sensiblement et les DGF aussi.
Ouais,
Donc c'est cette seule manne qui nous reste, et on en parle régulièrement, pour au moins essayer de stabiliser nos recettes.
De toute façon, c'est la seule. Alors avant, on avait les deux leviers qui étaient la taxe d'habitation et la taxe foncière. Comme maintenant, nous n'avons plus le levier de la taxe d'habitation, on est obligé de jouer que sur la taxe foncière. Mais l'incertitude, le problème, c'est ces dotations qui baissent constamment. Je rappelle bien entendu qu'on a totalement perdu la DGF en 4 ans. Qui représentait pour nous une somme de 630 000 euros par an. Donc, quand vous perdez 630 000 euros sur la mandature précédente, on a perdu 3,3 millions de recettes qui auraient dû rentrer dans nos caisses et qui ne rentrent plus. Donc, il faut. Et on ne peut pas dire à Loire où on arrête tout et on dit bon, on enferme des services et puis on continue comme ça, ou on essaye de maintenir une qualité de service public, ce qu'on a essayé de faire. Mais il faut bien entendu trouver des recettes complémentaires. Et c'est pour ça qu'on mène une politique à la fois de hausse fiscale, parce que c'est obligatoire, et que ce que ça aurait dû être fait bien avant, ça nous aurait évité certains petits soucis. Et puis surtout, on essaye aussi de mener une politique de hausse des tarifs, parce qu'on se dit aussi que ce n'est pas normal que tous les mounards payent pour tous les services. Alors bien sûr, mais il y a plein de mounards qui n'utilisent pas le service enfance, qui ne vont pas au NEC, qui ne vont pas à la médiathèque. Ça s'appelle la solidarité, mais il faut aussi que les utilisateurs des services ils payent des tarifs qui restent corrects. Donc on a cette politique-là en même temps d'essayer d'augmenter les tarifs à des niveaux qui restent corrects et bien entendu en fonction des revenus de chacun. Donc on a les concours financiers de l'État. Vous voyez que c'est toujours pareil, hein. C'est comme pour Saint-Étienne Métropole, ça augmente pas beaucoup non plus. Vous voyez que la DGF plus la dotation de solidarité rurale, enfin, c'est plus que la dotation de solidarité rurale, il faut que j'enlève la DGF puisqu'on l'a plus. A augmenté vraiment à la marge. Mais par contre, on a eu une très très grosse baisse des compensations fiscales. Alors les compensations fiscales, ce que nous paye l'État pour nous rembourser ce que nous doivent normalement les gens qui sont exonérés. Vous savez qu'il y a un certain nombre de catégories de personnes qui sont exonérées de la taxe foncière parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles ont des revenus insuffisants, voilà. Et l'État nous compense. Mais cette année, on n'a pas compris pourquoi c'était passé de 81 000 à 810 000. De 70 000 à 60 000. Quand on interroge les services fiscaux, la réponse est toujours la même, on ne sait pas. Bon, alors si vous ne savez pas, nous, on ne risque pas de savoir plus que vous. Hein, donc, voilà. Ce qui fait qu'effectivement, mais on verra plus tard, nos recettes fiscales ont été un petit peu moins importantes que ce qu'on avait espéré. Voilà. Donc ça, ce sont les concours financiers de Saint-Étienne Métropole. Donc là, vous voyez que c'est pareil. Hein. Ça a baissé pendant 2 ans. Là, cette année, c'est stable. Et on voit qu'il y a une différence entre les colonnes, entre la colonne rose, qui est l'attribution de compensation, et la dotation de solidarité communautaire. Mais si vous faites le total des deux chiffres, c'est pareil. En fait, ça a été une régularisation légale. Saint-Étienne Métropole s'est fait taper sur les doigts parce qu'il versait des sommes qui auraient dû être dans une catégorie et pas dans l'autre. Donc, ils ont équilibré, mais le total est exactement le même. Là-dessus, il n'y a pas d'évolution. Voilà. Alors, les recettes de fonctionnement, on récapitule. Elles ont augmenté de 1 à 94%. C'est la deuxième année de hausse consécutive, mais bien sûr, c'est très limité. Les recettes fiscales progressent de 2,17%, mais comme je vous l'expliquais, c'est moins important que prévu. Alors, il y a à la fois le problème des compensations et certainement que les bases fiscales n'ont pas été aussi importantes que prévu. Je vous rappelle que les bases fiscales, c'est l'assiette, le total des valeurs locatives de tous les bâtiments qu'on possède, enfin de toutes les maisons, tous les appartements, auxquels on applique un taux de taxe foncière. Si ça a été moins important, c'est certainement que les bases ont été moins importantes. Donc la réforme de la taxe d'habitation, c'est pareil, nous permettrait de conserver nos produits à l'euro près, au moins jusqu'en 2023. Mais alors là, on est très méfiants, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a ça. Quand on a perdu la taxe professionnelle, Saint-Étienne Métropole nous a dit on vous compense à l'euro près. Oui, mais à l'euro près, à l'année où la compensation a été faite. Donc là, c'est pareil, la taxe d'habitation, on nous la compense à l'année où ça a disparu, c'est-à-dire en 2021. Comment ça va évoluer? On ne sait pas. Quand il y a une dynamique, quand il y a des nouvelles maisons, quand il y a des nouveaux habitants, normalement, nous, on avait une dynamique aussi. Si on construit un logement, si on construit un immeuble où il y a 25 logements, on a 25 personnes de plus qui sont soumises à la taxe d'habitation. Donc ça, c'est une dynamique. Celle-ci, on l'aura certainement. On ne sait pas si l'État va tenir compte de ça ou pas. Pour l'instant, on n'a pas de précision. Et on rappelle, bien entendu, la disparition quasi complète des dotations d'État qui ne reviendront pas, ça c'est sûr. Voilà. Alors, c'est un peu contradictoire. Mon titre est un peu contradictoire avec ce que vous allez voir après, mais je vais vous expliquer pourquoi. On met une tendance à la baisse confirmée des charges de fonctionnement. Mais quand on prend le tableau là, derrière, on voit quand même que nos charges de fonctionnement, elles ont un petit peu augmenté. Mais je vais expliquer aussi pourquoi elles ont un petit peu augmenté. Quand on regarde les charges de personnel, elles sont passées de 5100 à 5151. Ce n'est pas très important, c'est quand même une légère hausse. C'est aussi dû à l'effet 2020, quand on a eu le confinement. Pendant 4 mois, on a bien entendu payé les fonctionnaires, puisque les fonctionnaires ont été payés de la même façon, mais on a beaucoup d'agents qui sont des agents contractuels ou qui sont payés horaires. Par exemple, quand on fait les vacances de février au centre de loisirs, on embauche des animateurs. Or, effectivement, ces gens-là, on ne les a pas embauchés en 2020, puisqu'il n'y a pas eu de centre de loisirs en 2020. Ce qui explique un peu l'augmentation des charges de personnel. On a, vous voyez, les charges financières qui sont à peu près étales. Les subventions et participations, on est à peu près pareil. On a quand même un peu augmenté les charges réelles, mais là, c'est pareil. Quand vous regardez en 2019, on était à 2000 euros. Quand on a baissé, bien entendu, en 2020, mais pendant 4 mois, on n'a pas chauffé les bâtiments. On n'a pas acheté de produits, on n'a pas acheté de fournitures administratives. Forcément, ça a fait baisser les charges de fonctionnement. Donc cette année, en 2021, ça a réaugmenté, mais c'est une réaugmentation, pas fictive, mais qui est quand même dans une tendance à la baisse et dans c'est ce qu'on appelle une courbe de tendance. C'est-à-dire que si on rentre les chiffres de 2017 à 2021, et qu'on demande que Excel nous trace la courbe de tendance, on voit qu'effectivement, ça continue à baisser. Parce que malgré une augmentation très faible de plus de 2%, la tendance, elle est quand même à la baisse sur les dépenses de fonctionnement. Et c'est ce qu'on souhaite, parce que c'est obligatoire. Si on ne contraint pas et si on ne contrôle pas nos charges de fonctionnement, il y a un moment où ça va être très compliqué à gérer.
Pour 2022, il y a une chose qui est certaine. C'est que certaines dépenses liées au Covid, en 2020, c'est vrai qu'on a une baisse de charges de fonctionnement malgré oui. Les charges liées au Covid. En 2021, on a continué bien évidemment à acheter des masques, du gel, des essuie-mains en papier, etc. Donc ça, c'est une charge qui devient maintenant permanente, pour ne pas faire d'illusion. Alors c'est vrai qu'une année, on peut faire du stock. L'année suivante, on en a moins, donc ça baisse. Mais le stock, il faut le renouveler. Ça, c'est une première chose. Je vous rappelle qu'on avait acheté récemment un certain volume de masques FFP2 dans l'hypothèse où ça serait rendu obligatoire au niveau des écoles. Et puis, on a également, et là on ne le voit pas en 2021, l'impact immédiat du coût de l'énergie. On l'a subi évidemment sur les quelques derniers mois, mais pas sur une année pleine. Donc on peut s'attendre quand même. Alors oui, il y a une baisse, une maîtrise de nos charges de fonctionnement, mais ça va être très très dur, d'autant que les charges de fonctionnement, c'est... c'est un peu plus de 30% de nos dépenses, le reste étant les charges personnelles.
Voilà. Donc là, on résume ce que je viens de vous dire. Les charges de fonctionnement qui ont donc baissé de plus de 6% si on prend la tendance linéaire entre 2017 et 2021. Donc elle avait tendance à se poursuivre, cette baisse. Comme l'a dit Monsieur le maire, on ne connaît pas l'impact de l'augmentation des prix de l'énergie, des prix des matières premières. Et ça, malheureusement, à l'heure actuelle, pour faire un budget sur la totalité de l'année 2022, c'est très compliqué, parce qu'on n'a aucune idée de combien de temps l'inflation va durer, si elle va encore réaugmenter ou pas. Donc là, on est parti sur une base à peu près de 3% d'inflation, mais on souhaite et on croise les doigts pour que ce soit pas plus. Donc effectivement, on essaye toujours de maîtriser nos charges de fonctionnement et notre budget 2022 sera basé sur la même dynamique. Donc on a un excédent budgétaire en 2021 qui ouvre quand même un petit peu plus de perspectives parce qu'on a un excédent quand même cumulé en hausse de 30% par rapport à 2021. On a atteint une somme de 2 169 000 qu'on n'avait jamais atteint. C'est-à-dire que je vous rappelle que l'excédent cumulé, c'est-à-dire que c'est la totalité de nos économies antérieures, si vous voulez, tout ce qu'on avait ce qu'on a réussi à économiser sur les années antérieures, qui ont été augmentées en 2021 de la différence entre nos recettes et nos dépenses. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous est resté en 2021 quand on a fait la soustraction en disant on a touché tant, on a dépensé tant, ah bah tiens, on a fait des économies pour ce montant-là. Donc ce montant-là, on l'ajoute à ce qu'on avait déjà et on atteint cette année un montant de 2 169 000, ce qui est quand même important puisque ça représente 21% de nos recettes de fonctionnement, ce qu'on n'avait jamais atteint là. Et c'est important parce que ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, c'est la possibilité qu'on a, on verra tout à l'heure les investissements, mais les investissements, il n'y a pas 50 façons de les financer. Soit on emprunte, c'est un peu comme chez vous, hein, vous achetez un appartement, bah, soit vous avez les sous, et vous mettez les sous-cash sur la table et vous dites au notaire, c'est bon. Soit vous ne les avez pas, vous en donnez une partie, et puis le reste, ben vous empruntez. La commune, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nos investissements, on va faire une partie d'emprunt, mais c'est pareil, il faut être méfiant, et puis on va faire une partie de nos économies. Et ces économies-là, on les prend sur le fonctionnement. C'est-à-dire, par exemple, on a 100 000 euros, on dit, ben tiens, on va mettre 30 000 euros, on a un investissement de 150 000 euros à faire, eh ben, on va emprunter 100 000 et on va pouvoir mettre 50 000 de ce qu'on a, nous, de notre réserve. Voilà. Donc c'est important parce que ça nous permet, on le verra plus tard, d'augmenter l'investissement. Donc là, après, on a un petit slide qui nous montre effectivement...
Je voulais revenir, c'est 2 169 000. C'est un bon chiffre, hein, jamais atteint. On a bien redressé, les indicateurs passent au vert. Pour autant,
oui.
Je vous rappelle qu'on a environ 800 000 euros à rembourser en capital d'emprunt chaque année. Donc s'il ne se passait rien... En 3 ans, on aurait complètement consommé notre capacité d'autofinancement. Heureusement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et puis on n'a pas le droit, en fait, d'avoir recours à l'emprunt pour rembourser de l'emprunt. Les annuités, on doit les rembourser impérativement sur notre capacité d'autofinancement. Donc, on consolide la tendance qu'on avait amorcée à partir de 2020. Mais pour autant, on n'a pas encore de marge de manœuvre suffisante pour être, je dirais, totalement serein par rapport à nos projets.
Tout à fait. Donc là, on voit, bon, bah, là, on reprend, hein, c'est simplement pour voir la courbe. L'année 2016 était un peu spéciale. On avait eu un très, très gros, une très grosse rentrée d'argent due à une vente importante d'un établissement sur la commune. Voilà, donc c'était très temporaire. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement net. Alors, je vais revenir sur la notion. Il y a deux notions dans la comptabilité communale. C'est la CAF brute, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement brute. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est tout bête. On prend ce qu'on a dépensé, on prend ce qu'on a encaissé, on fait la différence et le résultat, qui doit toujours être positif, parce que sinon, on a des petits soucis avec le trésorier payeur général et le préfet, parce que les communes, elles, n'ont pas le droit de présenter un budget en déficit. Le résultat de l'année, c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement brut. C'est-à-dire qu'on a dépensé 2 millions, on en a encaissé 2 500 000, ou 2 800 000. Notre capacité d'autofinancement brut, c'est 800 000 euros. Mais il y a une deuxième notion qui est la capacité d'autofinancement net, et c'est ce dont vous a parlé Monsieur le maire, c'est qu'à cette somme-là, on doit automatiquement enlever le remboursement du capital de la dette. C'est-à-dire que si on a 500 000 euros de remboursement de dette, on a 800 000 euros de CAF brute, notre CAF net, elle sera que de 300 000, parce qu'on aura enlevé de 800 à 500. Voilà. Parce qu'ils considèrent, et c'est ce qu'a dit Monsieur le maire, qu'une commune n'a absolument pas le droit d'emprunter pour payer ses emprunts. Ça s'appelle tout simplement, dans la vie commune, du surendettement. Si on emprunte pour rembourser ses emprunts, ça s'appelle du surendettement. Donc notre capacité d'autofinancement net, elle est restée pendant de nombreuses années négative parce que justement, on n'avait pas une capacité d'autofinancement brut suffisante pour couvrir la totalité de nos emprunts. On a bien entendu d'autres recettes financières, hein, on n'a pas que ça pour rembourser les emprunts. Mais quand on faisait la totalité de tout, on était toujours un peu en dessous. Et quand on est un peu trop en dessous, ça vaut de temps en temps d'aller faire la visite au préfet et au trésorier payeur général qui nous dit qu'on ne gère pas bien. Et voyez que maintenant, on est passé depuis 2 ans en capacité d'autofinancement net. Alors l'histoire de cession exceptionnelle, en fait l'année dernière on a vendu pour 62 000 euros de matériel. Ça nous a un petit peu faussé les courbes, c'est pour ça que je les ai reprises sans. Mais on voit que maintenant, effectivement, on est quand même dans une capacité d'autofinancement qui est positive. Et c'est un indicateur qui nous montre que ça s'améliore. C'est encore pas suffisant, hein, parce que normalement, il y a des communes qui ont des capacités d'autofinancement nettes à plusieurs millions. Hein. Nous, on est loin.
C'est cette situation, donc en 2016, on a pu remonter avant jusqu'à 2019, qui avait mis en lumière le rapport de la Chambre générale des comptes. Sur nos indicateurs et appréciations d'éléments de gestion, il y en avait d'autres. Hein. On en reparlera plus tard. Mais il y avait cette capacité d'autofinancement net qui leur posait problème. Donc là, compte tenu des engagements qu'on avait pris, on est passé au-dessus. On est en positif maintenant. Mais attention, positif, il faut maintenant le sécuriser. Il faut continuer à ce que ce soit positif. Parce que sinon, là aussi, ça pourrait nous poser des problèmes dans l'avenir.
Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Soit on augmente nos recettes de fonctionnement ou on baisse nos dépenses, c'est-à-dire qu'on augmente notre capacité d'autofinancement brut, soit on baisse notre dette. Et c'est ce qu'on fait. Conjointement, on essaye, et on le fera encore en 2022, on essaye de maîtriser nos charges de fonctionnement de façon à ce qu'on fasse plus d'économies et en même temps, eh ben, on baisse un peu la charge de la dette, on emprunte moins pour que effectivement le remboursement du capital soit une charge moins importante et nous laisse un petit peu plus de capacité d'autofinancement. Voilà, donc vous voyez, sur 2022, il ne va pas y avoir au niveau du budget de fonctionnement de révolution. On va continuer ce qu'on continue à faire, c'est-à-dire à essayer de maîtriser nos charges de fonctionnement et à essayer de trouver des... Alors, les recettes, il y a effectivement la hausse de la fiscalité qui est le seul levier que la commune possède. Il y a la hausse des tarifs. Il peut y avoir... Alors, on n'est pas très optimiste parce que, par exemple, sur les dotations de la caisse d'allocation familiale, on est rentré dans un contrat territorial globalisé qui a plutôt tendance, encore une fois, à vouloir nous donner moins d'argent qu'à nous en donner plus. Voilà. Mais il faut reconnaître que l'État a quand même tendance un petit peu en ce moment à demander beaucoup de choses aux communes, pas forcément nous donner les moyens financiers qui vont avec. Je pars sur un truc tout bête, par exemple pour le personnel. Dans les écoles, il y a ce qu'on appelle les AVS. Ça ne s'appelle plus les AVS, maintenant ce sont les personnes qui viennent aider les enfants handicapés. Donc ces gens-là sont payés, ces employés-là sont payés par l'éducation nationale, puisque ça fait partie. Mais des moments, les enfants qui mangent à la cantine ont encore besoin de leur AVS pour manger, parce qu'ils ne sont pas en capacité de manger tout seuls, ou parce qu'ils peuvent troubler la tranquillité de la cantine. Donc, les AVS viennent manger avec eux. Et ben maintenant, l'État a décidé, unilatéralement et sans en informer personne, et ben que ces temps de cantine, ce serait maintenant les communes qui allaient les payer. Voilà. Donc, c'est encore une charge supplémentaire. Et il y a comme ça des tas de petits trucs qui s'ajoutent, mais qui, au bout d'un moment, font une charge au niveau de la commune qui est quand même très importante.
Avec un problème qualitatif, on y est confronté hein, sur deux situations. C'est que c'est la commune qui paye le temps périscolaire pour une AESH aujourd'hui. Par contre, on a du mal à les trouver.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y en a qui, effectivement, sont dans la classe avec l'élève.
Elles ne veulent pas manger.
En temps complet. Mais si elles ne veulent pas accompagner l'enfant à la cantine, ce qui est leur droit, on n'est pas obligé de travailler plus, il faut que nous, on aille chercher des personnes uniquement pour le temps méridien, pour le temps de cantine. Donc, c'est-à-dire 1h30 ou 2h, et on ne trouve personne.
Ouais.
Et puis, surtout, ça, c'est un vrai problème parce qu'on a deux situations très embarrassantes. Actuellement, on n'a pas de solution.
Non.
Et on a dit aux associations, trouvez-nous des gens et nous, on va les recruter, peu importe. Mais on ne trouve pas. Alors, il y a une démarche qui est faite au niveau de l'Association des maires de France vis-à-vis du gouvernement pour dire que ces coûts pris en charge par les communes, en particulier sur le temps périscolaire du midi, doivent être intégralement remboursés par l'État. Mais bon, c'est une démarche.
S'ils ont pris cette mesure-là, je ne pense pas que ce serait pour revenir en arrière et nous les payer. Mais bon. Donc, sur l'investissement, on va passer rapidement aussi. Donc, on voit que l'encours de la dette a baissé de 3,16% pour atteindre 5 834 230. Ça fait partie des choses qu'on avait dit, qu'on arriverait à baisser l'encours de la dette. Quand on est arrivé, on était à peu près à 980. En 2021, on doit être à 950. Donc, on a, vous voyez, baissé. Et on va essayer petit à petit de baisser cet encours de la dette. Donc, se poursuit et l'effort devra être maintenu.
Simplement, c'est la situation au 31 décembre 2021 de l'encours des prêts. Bien évidemment, et vous le savez, on avait prévu 400 000 euros par an sur les 4 années. On a dit que pour financer notre plan pluriannuel d'investissement, il allait falloir passer à 500 000 euros. Ça veut dire de 5,8 millions, fin 2022, il faudra rajouter 500 000. Chaque année, le capital...
Pas tout à fait, parce qu'on aura peut-être un ou deux...
Un plus moins.
Un ou deux emprunts qui seront arrêtés, mais...
Non, voilà, c'est ça. C'est représenté une partie. L'idée, elle est là. C'est que c'est pas, bon, 5,8 millions, on rembourse un peu moins de 800 000 euros par an, ça va s'éteindre normalement. Non, parce qu'on reconstitue, en fait, de la dette. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, certainement pas à la hauteur de ce qu'on a pu connaître. Et bon, vous connaissez les débats qu'on a commencé à avoir. Hein. Peut-être qu'il y a une année où il faudra qu'on fasse vraiment un très, très gros emprunt, même si c'est sur une durée très courte, pour financer nos projets, parce qu'entre le moment où on finalise une action de recette et où on l'encaisse, et le moment où on engage les dépenses, il peut s'écouler un an. Donc cette année-là, eh bien, il faut qu'on emprunte pour couvrir les dépenses.
Après, il y a le système de ligne de crédit qui coûte quand même moins cher qu'un emprunt, mais bon, voilà. Parce qu'effectivement, on paye les travaux et on reçoit les subventions après. Donc forcément, il faut un moment où on ait suffisamment de trésorerie pour payer. Donc là, le recours à l'emprunt 2022 sera contenu, mais bien entendu, c'est ce que disait Monsieur le maire, il s'adaptera aux besoins de financement de nos investissements. Donc, les dépenses d'équipement, vous voyez qu'elles sont quand même pas énormes. En 2018, on avait dépassé les 1,4 million, ça a été l'opération du Clos Bayard. Depuis, bien entendu, on essaye de diminuer ces dépenses d'équipement. Et en 2020, l'année a été particulièrement basse. Mais bon, il y avait quand même deux éléments. C'était une année de renouvellement de conseils municipaux. Donc, il y a rarement des grands projets qui se font, puisque l'équipe sortante ne va pas engager des frais. Et ceux qui arrivent, il faut quand même un certain temps pour se mettre en marche. Donc, effectivement, et puis l'année 2020 étant l'année la plus sombre de la pandémie, c'est pas là qu'on allait effectivement avoir de gros investissements, surtout que c'était l'année où on a tout arrêté en septembre parce qu'on avait des soucis. On ne trouvait plus de banques qui voulaient nous prêter. Bon, pour vous dire à quel point on avait une situation financière qui était quand même un petit peu compliquée. Voilà, donc on a remonté en 2021. À 400 000, un peu plus de 400 000 euros. Et sur 2022, on prévoit un peu plus. On prévoit presque 1 million d'euros de travaux d'équipement. On peut le faire parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, on a eu une capacité d'autofinancement qui était un petit peu plus importante. On va aller chercher des subventions parce que ça, c'est important. Il faut vraiment qu'on arrive à faire jouer tous les leviers, que ce soit le département, la région, peut-être même des subventions européennes. Et ça, c'est important et ça nous finance une partie, ce qu'on avait fait pour le Clos Bayard. Voilà. Donc, tout ça, plus effectivement un emprunt qui passerait à 500 000 euros, ça nous permettrait cette année d'investir à peu près 1 million d'euros en dépenses d'équipement, ce qui représente quand même plus du double qu'en 2021. Donc, c'est quand même une preuve qu'on essaye à ce niveau-là de tenir nos engagements et d'essayer d'entretenir nos bâtiments, d'acheter du matériel, d'acheter ce dont on a besoin pour travailler et puis faire des grosses opérations dont on vous parlera le 1er mars. Voilà. Donc l'évolution de la dette, eh ben, c'est ce que je vous disais. L'objectif a été atteint de moins 1 000 euros par habitant. En 2021, il est effectivement...
950 euros par habitant au 31 décembre. 950 euros par habitant.
Oui, 950 euros par habitant au 31 décembre 2021. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors il y a le fait qu'on emprunte moins et puis vous avez aussi tous les gros emprunts qui ont été faits, par exemple, à la fin du mandat de M. Chaboissier, qui sont terminés. Donc forcément, ça diminue. Mais c'est quand même des emprunts qui, au bout d'un... Ça ne représentait pas grand-chose sur le... Pardon. Je vais appuyer, sinon ça va sonner pendant une heure. Voilà, excusez-moi.
C'est une logique, hein. C'est qu'avant, on empruntait sur 25 ans. Aujourd'hui, on est sur des emprunts. Les derniers, c'était sur 15 ans. Donc là aussi, il faut se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que ces emprunts seront couverts beaucoup plus vite que ce qu'on a pu connaître.
Ouais. Et puis les taux d'emprunt n'étaient pas les mêmes il y a 20 ans que maintenant. Hein. Il faut reconnaître que depuis une dizaine d'années, on a quand même des taux qui sont très intéressants, hein, qui sont très bas. Hein. Voilà, et la dernière notion, c'est la capacité de désendettement, c'est-à-dire le nombre d'années que mettrait la commune pour rembourser son capital à l'instant T, hein, fin 2021. Donc le seuil de vigilance, c'est-à-dire que le seuil qu'admet nos organismes de contrôle, c'est 12 ans. C'est-à-dire qu'il faudrait 12 ans à la commune avec ses ressources propres pour rembourser la totalité de ses emprunts. Maintenant, on est descendu quand même à 5,96%, ce qui est quand même très intéressant, sachant que bon, on avait une année 2016 qui a été très particulière, mais on était monté à 22 années 7, ce qui était quand même très important. et qu'avait souligné également la Cour des comptes dans son rapport. Donc vous voyez que là aussi, c'est quand même un peu... C'est quand même un bon signe, mais c'est à poursuivre parce qu'il y a des communes qui ont des seuils de vigilance, des capacités de désendettement à très peu d'années. Quoi, hein, donc voilà. Donc un investissement 2022 qui sera quand même important et qui concerne des opérations comme de la voirie, des travaux, enfin tout ce qui peut être fait. En dehors des très grosses opérations qu'on vous présente, enfin des grosses opérations qu'on vous présentera lors du premier.
Alors, en dehors des grosses opérations, pour une raison simple, c'est que sur certaines, les coûts, les dépenses ne seront pas engagées en 2022. On les a lancées. Par exemple, c'est pas un secret, on a engagé un concours d'architectes. C'est un engagement de 300 000 euros qu'on a budgété sur 2022. Mais après, en fin d'année, il va falloir qu'on lance les travaux, et là, on sera sur des montants beaucoup plus importants. Donc, moi, le budget 2022 en termes d'investissement ne m'inquiète pas. Par contre, on commence à avoir déjà des grosses inquiétudes, des grosses incertitudes sur le budget 2023. Parce que là aussi, même si on a recours à 50% au plan de relance métropolitain, il va falloir que nous, on couvre les dépenses de 2023 par des recettes propres. Après, on s'adaptera. Si Métropole nous verse 50% de ce qu'il doit nous verser courant 2023, eh ben on aura moins recours à l'emprunt. Mais sinon, il va bien falloir couvrir les dépenses 2023 par nos propres financements. On ne va pas dire, quand on va commencer un chantier, ben on arrête tout, on attend que Métropole nous paye. Donc là, si vous voulez, c'est très, je dirais, motivant de dire, bon ben ça va, on va augmenter un petit peu nos investissements. Mais le plus dur, il reste à venir. Donc on sait, on a déjà longuement parlé sur les stratégies de décalage dans le temps. Mais là, il va y avoir un cap à passer qui va être très important, mais on en parlera évidemment le 1er mars.
Et le levier de recettes supplémentaires sur l'investissement, c'est bien entendu des cessions immobilières. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu exactement comme vous, si vous, dans un budget ménage, si vous n'en sortez plus parce que vous n'avez pas payé vos emprunts et que c'est votre emprunt voiture qui vous prend trop, ben vous vendez la voiture et vous récupérez une capacité supérieure. Voilà, donc effectivement, les cessions foncières font partie de la stratégie pour arriver à améliorer et à faire les travaux, essentiellement les travaux d'entretien de bâtiments. On s'y était engagé à entretenir nos écoles et c'est ce qu'on va faire, mais effectivement, ça a un coût important et il faut bien entendu les financer. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce débat d'orientation budgétaire? Non, ben, je vous remercie.
Donc, vous l'avez compris, la prochaine étape, donc là, on fixe un petit peu un cadre qui nous a amené à finaliser un projet de budget et en fonctionnement et en investissement qu'on vous présentera lors du prochain conseil. Ces budgets intégrants, donc l'ensemble des paramètres et des contraintes qu'on vient de vous présenter. Merci. Donc on va commencer l'ordre du jour du Conseil avec déjà les absents. Donc on a comme absent Corinne Mourgue qui m'a donné son pouvoir, Paul Wolf qui a donné son pouvoir à Jean-François Sahuc, Jacques Pellegrin qui a donné son pouvoir à Michel Cosset, Pierre Achard qui a donné son pouvoir à Antoine Di Paolo, Florence Joly qui a donné son pouvoir à Michel Bisaccia, Rémi Mounier qui a donné son pouvoir à Mireille Papin, et Pascal Convert qui a donné son pouvoir à Sylvie Barbe, et enfin Claude Bruno qui a donné son pouvoir à Christine Gezins. Ils ne sont pas malades, pour la plupart, ils sont en vacances. Et c'est de notre faute, puisque nous avons décalé d'une semaine un conseil qui aurait dû se tenir la semaine dernière. Donc voilà, mais ils suivent l'actualité même à distance. Premier point, c'est le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce procès-verbal ? Donc on va le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. L'état des décisions du maire, donc, que je prends par délégation du Conseil et que je vous rapporte après, ça va des décisions Alors moi, je les ai numérotés, pour moi, c'est plus facile. 67 à 79, donc c'est sur la fin de 2021, et de 1 à 12 sur 2022. Alors, je commenterai deux décisions. Sur la deuxième page, en date du 5 janvier 2022, il y a une convention d'audit et de conseil en aménagement du territoire avec la société CTR Conseil. C'est une entreprise que nous sollicitons pour calculer les surfaces de publicité extérieure des entreprises, puisque c'est sur ces bases-là, ensuite, que nous appelons la taxe locale sur les publicités extérieures. Donc, il y a une entreprise qui, tous les ans, réactualise les surfaces de publicité de façon à ce que nous, on puisse actualiser nos bases. Bon, vous savez qu'il y a un projet maintenant qui est acté de TLPI, une taxe locale sur la publicité intercommunale, qui va être beaucoup plus rigoureuse en termes de gestion des espaces publics, en termes de taille, en termes de typologie d'annonces, en termes d'affichage, d'éclairage. Et là aussi, bon, on peut se féliciter que ça aille dans ce sens, mais pour nous, ça va se traduire là aussi pour une perte de recettes. Et la seconde décision, c'est tout en bas, la décision du 2 février 2022, c'est le contrat pour la mise à disposition d'indicateurs sportifs diplômés pour encadrer des séances d'activité VTT sur les groupes scolaires. Donc là aussi, on reprend maintenant les activités qui avaient été quelque peu suspendues dans le cadre des écoles. L'ancien prestataire avait arrêté, donc on a trouvé un nouveau prestataire. Des questions par rapport à ces décisions ? On a ensuite deux documents qui vous ont été adressés, qui n'appellent pas, je crois, Frédéric, hein, de vote. C'est simplement une communication, c'est ça ? Alors, attendez. Il y a le ciel. Pardon. J'avais été trop vite. Donc, il y a la décision par rapport au ciel. Il s'agit des travaux d'éclairage public 2022. Donc, conformément à ses statuts, l'article 2 notamment, et aux modalités définies par son comité et son bureau, le ciel, territoire d'énergie Loire, peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Nous sommes adhérents du ciel. Donc, on vous propose deux projets, coût du financement. Donc, la rue des Bonnes pour 12 125. Comme on a une remise chiffrée à 11 155, c'est donc la réfection de l'éclairage public sur ces deux rues. Et la rue des résidences vertes, la base, c'est 13 318 euros, et ce qui nous serait facturé, 12 252 euros. Donc, ce qui représente un montant total de 25 443 euros, et nous aurions à payer 23 407. Donc, ces contributions sont indexées sur l'indice TP 12. Et je vous demande de bien vouloir, donc demander au ciel d'assurer la maîtrise d'ouvrage et travaux d'éclairage public 2022, rue des Bonnes et rue des Résidences Vertes. En fait, ce sont deux rues où il y a encore des ballons fluo. Dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier me sera soumis pour information avant exécution. Prendre acte que des travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. Prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel est effectué en une seule fois. Décider d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années et m'autoriser à signer toutes les pièces à intervenir. Des questions ? Bon, ça, c'est une délibération, je dirais, un peu type qu'on vous présente au fil des conseils. Quand on a des actions à mener sur la voirie, donc là, c'est de l'éclairage public, où on sous-traite directement au ciel pour obtenir la remise de 8%. Et donc, sur ces deux rues, c'était des ballons fluo, puisque maintenant, au fur et à mesure des remplacements d'éclairage, on bascule sur des systèmes à LED, même si certains habitants se plaignent parfois d'une baisse de la qualité de l'éclairage. On sait que, d'abord, il faut s'y habituer, déjà, c'est une première chose, et puis ensuite, on aura à la clé des économies quand même substantielles. C'est bien ce que je dis, Michel ? Ok, merci. Michel étant notre expert en termes d'éclairage public. Donc, on a deux rapports. Hein. Le premier, c'est le rapport... Comment ? On n'a pas voté. Excusez-moi, je suis impardonnable. Peut-être un petit peu fatigué en ce moment. Il faudrait peut-être que je prenne des vacances, moi aussi. Donc, qui est contre cette décision ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Elles sont donc adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc je vais y venir quand même à l'adoption du rapport sur le prix de la qualité du service public de l'eau. Donc là aussi, c'est une délibération, une présentation qu'on vous fait chaque année. La compétence eau potable a été transférée à Saint-Étienne Métropole le 1er janvier 2016. Le Code général des collectivités territoriales impose par son article L2224-5 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable. Ce rapport doit être présenté au Conseil métropolitain, puis à l'Assemblée délibérante de chaque commune dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. Donc on va bien le voter. Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, il y a un gros rapport de 60 pages qui est disponible au secrétariat. Et puis, vous avez reçu, je pense, la synthèse. En ce qui concerne la métropole, il y a donc 192 800 abonnés à l'eau potable. 25 millions de mètres cubes mis en distribution. 19 700 000 mètres cubes consommés par les habitants. 99,6% des 2075 prélèvements sont conformes aux normes. Le réseau de distribution de l'eau potable, c'est 2531 km, avec 9 usines de production, 135 réservoirs et un rendement moyen du réseau de 80,5%. Le rendement, c'est ce qu'on paye et ce qu'on facture. Il y a une différence, mais c'est ce qui est perdu en fuite ou en autre raison. Vous avez un second document qui est plus ciblé sur Saint-Prix-en-Jarez. Donc, simplement rappeler que le service est exploité en régie avec prestation de services confiés à la Stéphanoise des Eaux jusqu'au 30 septembre 2022. Vous savez qu'est en cours de négociation une délégation de services publics dans le cadre de la gestion de l'eau par Saint-Étienne Métropole pour les communes du secteur Furan, à la 13 communes, donc, dont nous faisons partie. Cette délégation de service public entrera en fonction au 1er octobre 2022. La fourniture d'eau est assurée à partir d'achats d'eau au service d'eau de la ville de Saint-Étienne. L'eau provient de l'usine de traitement de Solor, qui est alimentée par le barrage du Padriot, dont l'indice de protection est de 80%, et le barrage de la Valette, dont l'indice de protection est également de 80%. En 2020, nous avons donc 3274 abonnés pour une population de 6187. Ce qu'il faut retenir, donc, que nous avons importé 379 000 mètres cubes et que la consommation est de 305 000 mètres cubes. Nous avons deux réservoirs et trois stations de pompage. Alors, les réservoirs, il y a celui du Cray et celui de Sainte-Marguerite. Celui de Sainte-Marguerite contenant deux cuves. Et nous avons un linéaire de réseau, donc de près de 27 km. Après, vous avez des éléments tarifaires. Donc, vous savez qu'il y a des tarifs en fonction de la consommation. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que dit le document. Pour une facture moyenne de 120 mètres cubes au 1er janvier 2021, 300,68 euros, ce qui revient à 2,51 euros du mètre cube. Et enfin, en termes de performance, le rendement de distribution du réseau est de 80,06%. Amélioré par rapport à l'an dernier, puisqu'il était de 74%. Le rendement réglementaire est à 71%. Les indices linéaires de consommation, 31,56 mètres cubes jour par kilomètre. Puis après, ce sont d'autres indicateurs. Et donc, la qualité du réseau au regard des valeurs guides de l'Agence de l'eau est acceptable. Des questions par rapport à ce rapport sur l'eau potable ? Donc l'intégralité du rapport est consultable au secrétariat, mais il fait plus de 70 pages, donc c'est pour ça qu'on ne vous l'a pas présenté. Donc on le met au vote, Frédéric, non ? Parce que le texte n'est pas mal dit, parce qu'on nous dit que ça doit faire l'objet d'une délibération. Mais bon. Donc nous prenons acte de cette situation, parce que de toute façon, c'est un état de fait à un instant T, et je ne vois pas bien ce qu'on pourrait en dire de plus. Seconde délibération de même nature, il s'agit donc de l'adoption du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'assainissement collectif et non collectif 2020, mais sur la commune, nous n'avons pas de site d'assainissement non collectif. La compétence assainissement a été transférée à Saint-Étienne Métropole au 1er janvier 2011. Le Code général des collectivités territoriales impose, par son article L2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'assainissement collectif et non collectif. Ce rapport doit être présenté au Conseil métropolitain, puis à l'Assemblée délibérante de chaque commune dans les 12 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la petite feuille de synthèse que vous avez eue ? Pour la métropole, 192 000 abonnés, 19 millions de mètres cubes d'eau traitée, collectée, 1,93 euros du mètre cube, et là, 2036 km de réseau d'eau usée et unitaire. Donc 50 stations d'épuration d'une capacité totale de 487 000 équivalents habitants, dont 11 d'une capacité supérieure à 2000 équivalents habitants, ce qui représente 9 500 tonnes de boue produite. Et donc pour la métropole, on a 6 677 usagers de l'assainissement non collectif. Pour Saint-Prié, qu'est-ce qu'on peut dire ? 3 230 abonnés et avec un volume facturé de 298 470 mètres cubes. Donc le service d'assainissement non collectif est géré par Saint-Étienne Métropole. Il n'y a pas de délégation de service public. Il n'y a pas d'assainissement non collectif sur la commune. Sur les éléments tarifaires, dans la même logique que tout à l'heure, 218,96 euros pour 120 mètres cubes estimés au 1er janvier 2021, ça représente 1,82 euros du mètre cube. Sur la performance, alors l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées, c'est 27 sur 120 points. Et l'indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées, 50 sur 120 points. Donc voilà. Donc je vous demande là aussi de prendre acte de ce rapport. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Il y a un gros travail qui va être fait sur l'usine de Furania en termes de traitement des boues, puisqu'ils vont rapatrier des boues d'autres structures et stations pour optimiser la production de méthane. Parce qu'il y a une partie de l'usine Furania qui retraite les boues et donc produit du méthane. Donc là, il va également essayer d'optimiser cette production. On aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, la question suivante concerne un avenant à la convention de coopération contractuelle pour la gestion de l'assainissement, par rapport à la thématique qu'on vient de voir. Lors de la séance du conseil municipal du 4 juillet 2016, vous avez approuvé, donc le conseil municipal antérieur a approuvé, la convention de coopération contractuelle pour la gestion de l'assainissement avec Saint-Étienne Métropole. Cette convention permet aux communes de faire avec leurs équipes des travaux de proximité pour le compte de Saint-Étienne Métropole. Elle régit les relations entre les pôles territoriaux de Saint-Étienne Métropole et les communes dans la mise en œuvre des prestations d'assainissement. Les conventions de coopération avec les communes concernant la gestion de l'assainissement sont arrivées à échéance. La mise en exploitation de la régie de l'assainissement de Saint-Étienne-Métropole est fixée au 1er janvier 2023. Afin de garantir la bonne organisation du service et de disposer, pour les communes comme pour Saint-Étienne-Métropole, du temps nécessaire pour la mise en œuvre de l'organisation et des missions de la régie, le Conseil métropolitain du 30 septembre 2021 a décidé de prolonger les conventions de coopération contractuelle de l'assainissement par un avenant numéro 1 jusqu'au 31 décembre 2022. Je vous demande donc d'approuver cet avenant numéro 1 à la convention précitée, d'autoriser à le signer. Donc vous avez compris qu'on avait une convention qui arrivait à terme là actuellement, que la nouvelle régie que va assumer Saint-Étienne démarre au 1er janvier 2023. Donc c'est un avenant qui permet de proroger la convention jusqu'au 31 décembre 2022. Des questions par rapport à ça ? C'est une formalité administrative. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? L'avenant donc est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On a eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises et de rencontrer d'une part des représentants du groupe AXA France, mais également de l'association Axiom, ma commune, ma santé. Je vous rappelle que dans le cadre de notre politique sociale visant à améliorer les conditions d'accès à une couverture des frais santé, une complémentaire santé, la commune souhaite accompagner l'accès aux deux dispositifs suivants à disposition des habitants. Ma commune, ma santé, portée par l'association Axiom, et ma santé, portée par AXA France. L'objectif est d'offrir la possibilité aux Mounards de souscrire à une complémentaire santé, à des conditions et des tarifs préférentiels, sans aucune charge ou participation de la commune. Donc, vous vous souvenez un petit peu les règles. Je ne vais pas vous lire la convention AXA, hein, vous l'avez eu en main. Il y a donc deux opérateurs. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a choisi deux opérateurs? Un qui est plutôt dans l'assurance, l'autre plus dans une démarche de mutuelle. C'est d'offrir justement deux prestataires, deux offres de services à nos habitants, puisqu'on avait une demande assez renouvelée sur ce type de proposition, sachant que la commune n'est absolument pas partie prenante dans un choix ou dans un autre. La démarche, c'est d'offrir aux habitants la possibilité d'adhérer, ou pas d'ailleurs, en tout cas d'avoir des renseignements par rapport à leur complémentaire santé et de faire un choix dans une logique de contrat de groupe. Donc vous vous souvenez qu'en définitive, AXA, c'est un produit AXA, avec des options, alors que Axiom, ma commune, ma santé, c'est un courtier en assurance, en mutuelle, avec 30, 40, 50 prestataires en fonction des besoins définis par la personne. Donc l'idée, c'est qu'on propose ce service, mais qui n'est pas un service municipal, aux habitants qui sont intéressés, ne serait-ce que pour comparer ce qu'on paye par rapport à ce qu'ils proposent. Et bon, vous savez qu'on a eu le débat sur la problématique des seniors, qui bien souvent ont des complémentaires santé relativement onéreuses par rapport à leurs besoins, ce qu'on appelle le panier de soins. Donc, de simplement de mettre à disposition de ces opérateurs, bon, en l'occurrence, on va commencer avec la salle ici, qui rencontreront les habitants, et qui après bon, décideront, en toute connaissance de cause, des suites à donner. C'est une demande qu'on avait déjà eue au cours du dernier mandat. Dans le cadre du CCAS, ça n'avait pas abouti pour différentes raisons. Donc là, compte tenu de l'ampleur que prend ce phénomène, du nombre de communes qui proposent ce genre de service, on a contacté donc ces deux opérateurs et on vous demande de valider ces conventions. Alors une dernière précision, puisqu'on ne l'a pas fait encore pour Axiom, mais pour AXA, il pourrait intervenir à partir donc, du mardi 8 mars à 14h, le jeudi 24 mars à 9h, le mardi 5 avril à 9h et le jeudi 14 avril à 14h. On leur donne des séquences, ils recevront les gens, ils écouteront leurs problématiques, leurs besoins et puis ils leur feront ou pas une proposition. Avez-vous des questions par rapport à cette démarche? Soyez bien d'accord, il n'y a pas de caution ou de label de la mairie. On n'est pas, nous, responsables de la nature des contrats, de leur évolution, y compris tarifaire, et d'éventuels problème qui pourrait se poser entre l'assuré et sa complémentaire santé.
Le côté intéressant de cette mise à disposition, Michel Bizassia, pardon, pour l'enregistrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qui intéresse les mutuelles, c'est le volume. Et c'est pour ça qu'ils vous proposent des réductions, parce qu'effectivement, ils jouent sur le volume. Par exemple, avec ça, je crois que c'est 25% par rapport à... Enfin, par exemple, pour les seniors, c'est 25% par rapport à un tarif public, parce ils savent qu'ils vont avoir une capacité à avoir des contrats de façon plus importante. Et c'est pareil pour ma commune, ma santé. Donc voilà. En fait, nous, ce qu'on apporte juste, c'est la logistique et ce qui permet à ces deux sociétés-là de contacter beaucoup de personnes et éventuellement de souscrire des contrats en nombre important et plus intéressant pour les souscripteurs.
Donc on va voter sur la validation de ces conventions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, les deux conventions seront validées. Merci. Donc pour Axiom, bien évidemment, qui attendait la décision du Conseil, également, on va leur proposer des créneaux AXA rencontreront les gens, mais après, bon, distribueront, je pense, des flyers dans les boîtes et sont plus axés sur la rencontre à domicile, même si au début, ils préfèrent, pour des raisons un petit peu d'image, rencontrer les habitants en mairie. Alors qu'Axiom sont plus dans une logique de rendez-vous, je dirais, dématérialisé. Donc, ce cas-là, l'habitant appellerait la mairie, qui pourrait se connecter à un site avec des rendez-vous possibles et fixerait, prendrait rendez-vous donc pour la personne directement sur sur l'agenda de l'opérateur. Donc, à voir là aussi comment ça peut se mettre en place. Le point suivant, c'est l'action sociale en faveur du personnel communal. Alors, bon, je vais vous dire rapidement les montants. Là aussi, c'est une décision que nous opérons chaque année qui concerne, en fait, les prestations offertes au personnel communal dans certaines situations. La circulaire en date du 31 décembre 2021 du ministère de la Transformation et de la Fonction publique et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance dispose des prestations d'action sociale susceptibles d'être accordées au personnel communal au titre de l'année 2022. Donc l'actualisation par rapport à 2021 est de 0,29%. Donc pour les enfants handicapés, c'est une dotation de 167,54 €. Les subventions pour les séjours en centre de vacances spécialisés, c'est 21,94 € par jour. Les subventions pour les séjours de vacances, alors les enfants de moins de 13 ans, c'est 7,69 € et de 13 à 18 ans, 11,63 €. En centre de loisirs sans hébergement, la journée complète, 5,55 € et la demi-journée, 2,80 €. En maison familiale de vacances et en gîte, en pension complète, c'est 8,09 € et les autres formules, 7,69 €. Pour les séjours mis en œuvre dans un cadre éducatif, alors, forfait de 21 jours ou plus, c'est 79,69 €. Pour les séjours d'une durée inférieure, c'est 3,79 € par jour. Et pour les séjours linguistiques, dans les mêmes conditions que ci-dessus, enfants de moins de 13 ans, 7,69 € et de 13 à 18 ans, 11,64 €. Je vous demande donc de reconduire ces mesures en faveur du personnel communal, telles que définies ci-dessus et donc actualisées pour 2022. Des questions par rapport à ça? Donc là aussi, c'est une décision qu'on vous renouvelle chaque année compte tenu de l'actualisation nationale. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc ces barèmes sont adoptés à l'unanimité et je vous en remercie. Nous passons maintenant à la modification du tableau des effectifs. Ça devient presque à chaque conseil. Donc les agents communaux peuvent bénéficier d'évolutions de carrière de différentes façons, soit en passant des concours ou des examens professionnels, soit en obtenant un avancement de grade, soit en bénéficiant d'une promotion interne. Un adjoint technique territorial principal de deuxième classe, donc qui exerçait en école, a réussi le concours interne d'agent spécialisé principal de deuxième classe des écoles maternelles, ce qu'on appelle un ATSEM. Pour pouvoir le nommer, il convient de transformer un emploi d'adjoint technique principal de deuxième classe en agent spécialisé principal de deuxième classe des écoles maternelles. Enfin, le décret 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux intègre les auxiliaires de puériculture principaux de deuxième classe et auxiliaires de puériculture principaux de première classe, respectivement dans les grades d'auxiliaires de puériculture de classe normale et auxiliaire de puériculture de classe supérieure. Donc, c'est un agent technique d'école qui devient agent spécialisé école maternelle et un classement évolutif pour l'ensemble de nos auxiliaires de puériculture. Qui passe donc de... Les premières classes deviennent classe supérieure et deuxième classe, classe normale. Des questions par rapport à ça? Donc là aussi, hein, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a des évolutions, qu'elles soient réglementaires. Alors, l'évolution des auxiliaires, c'est on change de catégorie, si vous voulez. Ça s'est traduit, hein, pour l'ensemble des auxiliaires de puériculture, par l'attribution de points supplémentaires par rapport à leur coefficient antérieur. C'est à la marge, mais mis bout à bout, c'est une décision nationale qui s'impose à nous, comme l'avait rappelé Michel, et donc qui va venir impacter notre masse salariale, inévitablement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui valide? Donc, à l'unanimité, ces actualisations sont validées. Je vous en remercie. On va évoquer maintenant, pour les personnels, toujours la protection sociale complémentaire. Alors, c'est un petit peu complexe parce que les échéances sont assez éloignées et puis surtout, nous n'avons pas les bases financières sur lesquelles nous pourrions être amenés à nous prononcer. Donc il y a une décision qui s'impose à nous, donc on va ce soir prendre une décision, mais ce sont des dossiers que nous rouvrirons dans l'avenir. Donc vous avez 6 jours et une note relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique en application de l'ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 visant à redéfinir la participation des employeurs publics à la protection sociale de leur personnel. Je vais essayer d'être assez court par rapport à ça. Donc le dispositif actuel. Depuis 2012, les employeurs territoriaux, donc les mairies, peuvent contribuer à la prise en charge des dépenses en matière de complémentaire santé ou de prévoyance selon 2 procédures. La procédure de convention de participation. Donc on met en concurrence pour sélectionner un contrat auprès d'un opérateur en attribuant une participation financière aux agents adhérents à ce contrat. Donc c'est la mairie qui va chercher un opérateur, un prestataire qui le propose aux agents et qui prend en charge une partie de la cotisation. Et puis il y a la procédure de labellisation qui vise à verser une aide financière aux agents qui ont souscrit à un contrat labellisé d'un opérateur figurant sur une liste publiée à la Direction générale des collectivités locales. Le dispositif actuel présente un caractère facultatif tant pour la participation des employeurs que pour l'adhésion des agents. Le dispositif à venir prévoit donc la mise en place de 2 dispositifs pour la santé, donc la complémentaire santé. À compter du 1er janvier 2026, il y aura une participation obligatoire des employeurs publics à hauteur d'au moins 50%. C'est là que je vous dis, d'accord, mais 50% de quoi? On ne sait pas. Les barèmes, les bases n'ont pas encore été fixées par le ministère. Quant à la prévoyance, donc incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès, ce sera à compter du 1er janvier 2025 avec une participation obligatoire des employeurs publics à hauteur de 20%. Donc vous voyez que là encore, ce sont des décisions nationales qui vont s'imposer aux collectivités territoriales. Alors, je ne connais pas les montants, mais de toute façon, ça se traduira par une augmentation de nos charges de personnel. Un décret doit fixer les garanties minimales qui doivent comporter les contrats, comporter les contrats de santé et de prévoyance. Il est toutefois précisé que le socle minimal en matière de santé devra au moins comprendre le panier minimum des garanties qui s'appliquent aux salariés bénéficiant d'une couverture santé complémentaire à adhésion obligatoire, à savoir la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, le forfait journalier, les frais exposés en plus des tarifs de responsabilité pour les soins dentaires, prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. Donc là, on rentre dans la cuisine un petit peu des règles en termes d'assurance maladie. Débat obligatoire sur la protection sociale complémentaire. Les assemblées délibérantes, donc les conseils municipaux, des collectivités territoriales, doivent organiser un débat sur les garanties de la protection sociale complémentaire accordée aux agents au plus tard le 18 février 2022. Oui, mais on est aujourd'hui un petit peu en retard, mais on n'est pas conseillé avant. Ce débat informe sur les enjeux, les objectifs, les moyens et les trajectoires 2025-2026. Les contrats proposés aux employeurs. La participation obligatoire des employeurs territoriaux pourra se formaliser par la conclusion de contrats collectifs ou individuels, par une convention de participation proposée par le centre de gestion ou par la labellisation. La conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire. À la suite d'une négociation collective avec accord majoritaire le prévoyant, l'employeur public pourra, après une procédure de mise en concurrence, conclure un contrat collectif pour la couverture complémentaire santé. Cet accord collectif majoritaire peut également prévoir la participation obligatoire de l'employeur public au financement de la protection sociale complémentaire prévoyance, l'adhésion obligatoire des agents publics à toute ou partie des garanties de ce contrat collectif. Un décret viendra préciser les cas de dispense de souscription au contrat collectif par les agents. notamment lorsque ces derniers sont déjà couverts par un contrat ou règlement collectif en qualité d'ayant droit, donc couverts par la complémentaire santé du conjoint. Les contrats collectifs adhésion facultative proposés par le centre de gestion. Les centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, après une procédure de mise en concurrence des conventions de participation avec les mutuelles ou unions mutualistes, les institutions de prévoyance ou les entreprises d'assurance. Les employeurs publics doivent alors préalablement mandater le centre de gestion, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire nous, on confie cette mission au centre de gestion. Les collectivités pourront adhérer aux conventions proposées par les centres de gestion pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir après signature d'un accord avec le centre de gestion. Donc on sous-traite au centre de gestion. Troisième option, maintien de la labellisation ou du conventionnement direct. Sont éligibles à la participation obligatoire des employeurs territoriaux les contrats qui garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles. Cette condition est remplie par deux dispositifs. Le choix d'un contrat labellisé, le dispositif existant de labellisation est donc conservé, et le champ des contrats éligibles à la participation financière des employeurs territoriaux est élargi. Le conventionnement direct avec des organismes, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou entreprises d'assurance, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente. Donc en résumé, un contrat collectif adhésion obligatoire, s'il y a un accord majoritaire sous-entendu dans le cadre des relations avec les personnels, donc les organisations représentatives. Une convention de participation des contrats collectifs à adhésion facultative après procédure de mise en concurrence et un système de labellisation ou conventionnement direct. Pour rappel à ce jour, pour la fonction publique territoriale, les négociations entre employeurs et syndicats n'ont toujours pas abouti. Le 15 décembre dernier, les syndicats ont boycotté la séance plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour exprimer leur désaccord avec un projet de décret établissant des montants de référence en matière de participation des employeurs territoriaux en santé et en prévoyance, 15 € par mois en santé et 5,42 € par mois en prévoyance. Le projet de décret fixant les montants de référence pour la participation obligatoire en santé et en prévoyance devrait être à nouveau présenté lors d'une séance du 16 février. Concernant la fonction publique d'État, seule la partie santé est aujourd'hui réglée. L'accord signé garantit, dans le cadre des contrats d'adhésion obligatoire, une participation forfaitaire de 15 € par mois. Donc nous, on a déjà un petit peu parlé dans le cadre du comité technique. C'est vrai que nous, aller labelliser, aller négocier avec un prestataire un produit, bon, passer par le centre de gestion, pourquoi pas. L'idée est la plus simple, parce qu'après, on est confronté à tous les cas de dérogation, les personnes qui ont déjà une couverture, qu'elle soit en complémentaire santé ou en prévoyance, par le conjoint ou même par une assurance personnelle, hein, pourquoi pas. Ça serait, mais aujourd'hui, hein, en l'état de nos réflexions, y compris avec les représentants du personnel, ça serait de labelliser un certain nombre de contrats. Les agents adhéreraient au contrat qui leur convient le mieux et on verserait, nous, une participation financière par rapport à ce qu'ils paieraient, dans la limite, bien évidemment, des plafonds fixés par l'État. Ça serait le plus simple. Peut-être pas forcément le plus simple en termes de gestion, mais peut-être le plus simple en termes de besoins de nos agents. Après, on verra d'ici 2025 et d'ici 2026, les choses peuvent encore évoluer. Donc là, c'était, je crois, simplement une information, me semble-t-il. Donc je vous demande de prendre acte de cette mesure. Bon, il n'y a pas lieu, si vous voulez, de voter, puisque c'est une décision nationale qui s'impose à nous. Là, encore une fois de plus, par extension des règles de la fonction publique d'État. On est toujours dans notre petite logique d'aménagement, d'actualisation des règles en faveur de nos personnels. Par délibération 17-12-19 du 5 décembre 2017, le Conseil municipal a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertises et engagements professionnels pour l'ensemble des postes existants à ce jour au sein de la commune. Vu l'arrêté du 5 novembre 2021 modifiant les montants de référence de l'indemnité de fonction, de suggestion et de l'expertise, qu'on appelle l'IFSE, et du complément indemnitaire annuel, ce qu'on appelle le CIA, pour les cadres d'emploi des techniciens territoriaux. Donc ce document actualise simplement les montants annuels de référence sur lesquels on vient appliquer un coefficient pour chaque agent. Donc en fait, on prend un montant par un coefficient et ça donne le montant de l'IFSE qu'on va lui servir tous les mois. Et ça concerne uniquement, alors si vous voulez bien passer au deuxième document, en catégorie B, groupe 1, les directeurs, directrices de services techniques, qui passent de 4 370 euros annuels à 4 915. Dans le groupe 2, les responsables de centres techniques municipaux, qui passent de 4 300 à 4 645. Et dans le groupe 3, les directeurs et directrices des espaces verts, qui passent de 3 662 à 4 375. Donc, c'est une actualisation exclusivement pour les cadres d'emploi des techniciens territoriaux. Et donc, axée sur tout ce qui est services techniques. Donc ça, c'était pour l'IFSE. Pour le complément indiciaire annuel, alors c'est pareil, toutes les autres catégories, hein, c'est inchangé par rapport à l'an dernier. On se retrouve en catégorie B. Groupe 1, directeur, directrice des services techniques, qui passe de 476 euros à 536. En groupe 2, les responsables de centres techniques municipaux, qui passent de 437 à 507. Et je crois que c'est tout. Voilà. Et tous les autres montants, que ce soit en IFSE ou en CIA, restent inchangés. Donc là aussi, je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre un vote? Oui, donc on va voter. Mais c'est quand même un barème qui s'impose à nous. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, donc on actualisera le barème pour les catégorie concernée. Alors maintenant, on va avoir une autre précision. C'est un dossier qu'on avait ouvert, vous savez, quand on est passé aux 1607 heures. On vous avait dit que le dossier n'était pas clos. On avait augmenté donc le temps de travail de l'ensemble de nos agents en fonction des réalités des emplois. Et il restait en suspens, on l'avait évoqué, une problématique qui était celle de la rémunération des astreintes des agents communaux titulaires du pôle enfant-jeunesse à l'occasion des séjours qu'ils accompagnent. Par délibération du 5 décembre 2005, du 6 juillet 2009, du 6 juillet 2015, du 4 décembre 2017 et du 4 novembre 2019, le conseil municipal a mis en place un régime d'astreinte, essentiellement pour les services techniques. Pour rappel, sur la commune, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sein de l'administration. Pour autant, certains responsables de service ou agents titulaires doivent rester à disposition lorsqu'ils accompagnent les séjours organisés dans le cadre du pôle enfant-jeunesse. Ainsi, pour la période de nuitée durant laquelle les agents dorment à proximité des enfants mais n'effectuent aucun travail effectif, et dans les cas où les séjours s'effectueraient un samedi, un dimanche, ou lors d'un jour férié, cette période peut être définie comme une permanence au sens du décret 2005-542 du 19 mai 2005. Cette permanence ne compte pas dans le temps de travail et est rémunérée ou compensée dans les conditions du décret et celles de l'arrêté du 7 février 2002, à savoir 45 euros la journée du samedi, donc 22,50 euros la demi-journée, 76 euros la journée du dimanche et jour férié, 38 euros la demi-journée, ou une compensation qui équivaut au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25%. Donc, soit on paye, soit les agents peuvent récupérer. En fait, on a transposé des règles qui ne concernaient pas spécifiquement les agents du pôle enfant-jeunesse lors des séjours, mais c'est la seule référence qu'on ait pu trouver de façon pratique. En dehors du cas de permanence, ce type de surveillance nocturne, donc surveillance active, ronde de nuit, etc., peut être traité en référence aux dispositions applicables dans d'autres fonctions publiques et qui retiennent un décompte forfaitaire de 3 heures entre le coucher et le lever des enfants. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'appliquer ce barème. Donc, par nuitée, c'est 3 heures de travail, indemnisé. Pour chaque samedi, 45 euros, et pour chaque dimanche jour férié, 76 euros. On a fait deux simulations pour deux des agents concernés. C'est à peu près équivalent. Il y en a un qui a un petit peu moins, en fonction de l'option, et pour l'autre, sensiblement plus. Et ça sera sans doute la méthode la plus pratique, parce qu'après, s'il faut à nouveau gérer des jours de récupération, sachant qu'ils sont déjà très, très, très occupés, y compris pour l'ensemble des activités qu'ils proposent ou qu'ils accompagnent. Donc, c'est la solution qui nous a semblé la plus satisfaisante. Je pense que, Frédéric, vous en avez parlé avec Ayane et puis avec les agents. Ça semble convenir à peu près à leurs attentes. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Oui, mais ils sont courants, hein. D'accord. Donc voilà, c'est la formule qu'on vous propose de retenir pour les indemniser lorsqu'ils accompagnent des séjours en dehors de la commune. Des questions par rapport à ça ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, ce barème est retenu et voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 12, donc c'est un petit peu en décalage. Donc, on a honoré la mémoire d'André Chaise le 5 février dernier au NEC. Le retour que j'en ai eu est assez positif dans le sens où c'était à la fois une cérémonie qui se voulait sobre et sincère dans la démarche. Il le fallait au moins pour honorer André Chaise. Donc le conseil municipal souhaite aujourd'hui rendre hommage à Madame André Chaise qui nous a quittés en 2021. Femme d'exception, adjointe et conseillère municipale sous plusieurs mandatures, elle était engagée dans de nombreuses actions, notamment en faveur des femmes, de la culture et de la vie associative. C'est pourquoi je vous propose, donc un petit peu à cretard, que la médiathèque municipale soit nommée médiathèque André Chaise. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité, merci. Et merci pour elle. On est dans le symbole. Dernière question, s'il s'agit donc de la modification du règlement intérieur de la médiathèque. Et donc je vais passer la parole à Christine Gueuzens.
Bonsoir. Donc je ne vais pas tout vous lire. Donc ce qui est affiché, nous avons eu pas mal d'échanges avec les services et le règlement intérieur qu'on vous a envoyé est un peu modifié par rapport à celui que je vais vous lire. Donc je vous préciserai tout de suite la modification. Donc là, pour les missions et dispositions générales, les missions, ça reste inchangé. En revanche, article 2, accès et horaire. Nous avons rajouté le samedi de 9h à 12h30. Auparavant, la médiathèque fermait à midi. Donc, elle est ouverte une demi-heure de plus au public, le samedi matin. Donc, le fonctionnement reste inchangé. Pour les inscriptions, modalité de l'inscription, donc le prêt de livres, revues, BD, CD, DVD, liseuses se fait en échange d'une participation financière annuelle fixée par délibération du conseil municipal. Donc la médiathèque distingue 6 inscriptions, l'inscription individuelle adulte et l'inscription individuelle d'enfant pour les habitants de Saint-Priant-Jarret. L'inscription individuelle adulte et l'inscription individuelle enfant pour les personnes qui habitent à l'extérieur de la commune. L'inscription à tarif réduit pour le deuxième adulte d'un foyer fiscal, les étudiants et demandeurs d'emploi. L'inscription à tarif réduit pour les agents municipaux. Donc là, je pense que c'est parce que... Voilà, donc... Le comité des œuvres sociales de la commune, on avait précisé la gratuité, mais en fait, non. De toute façon, pour l'instant, on ne vote pas le tarif, c'est juste un règlement intérieur, là. L'inscription pour le...
Je coupe simplement, c'est une régularisation. Dans le passé, on disait c'est gratuit pour les agents municipaux qui sont adhérents au COS. Ça veut dire que ceux qui ne l'étaient pas ne bénéficiaient pas de la gratuité. Donc, c'était une situation qu'on a souhaité aujourd'hui... normaliser. Voilà.
Donc, il faut lire vraiment l'inscription à tarif réduit pour les agents municipaux. L'inscription pour le compte d'une structure publique communale ou d'une structure à vocation de service public située sur la commune. Les écoles de Saint-Priest, le Clos Bayard, service petite enfance, lycée, maison de retraite, etc. Donc, il y a aussi un autre tarif pour l'inscription pour les écoles, collectivités et structures extérieures de la commune, association de promotion de la lecture destinée à l'extérieur de la commune, tel lire et faire lire. Voilà, ça sera donc des tarifs qui seront différents en fonction de quand on les votera. Et puis la différence aussi, c'est dans l'article 7, durée et nombre d'emprunts. Donc l'usager peut emprunter par carte pour une durée de 3 semaines 6 livres, 6 revues, 6 BD, 2 livres CD et 2 CD-ROM. Et par famille, donc 6 CD, 2 DVD documentaires, 2 DVD fiction adulte, 2 DVD pour enfants. Et nous avons rajouté aussi, qu'il n'était pas sur l'ancien règlement intérieur, une liseuse alimentée par les e-books fournis par la DDML. Je précise, oui, je doutais que vous alliez poser la question. La DDLM, c'est la direction départementale du livre et du multimédia qui se situe à Montbrison. Voilà, le reste est inchangé par rapport au règlement intérieur voté le 2 octobre 2017. Voilà, je vous remercie.
Des questions par rapport à cette actualisation du règlement intérieur ? Donc, qui est contre ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Excusez-moi. Non, fin de conseil. Oui, ouais, c'est pour voir si vous suiviez. Donc, la décision, l'actualisation est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, une question diverse. J'ai un point d'information. Florence Joly, qui était donc déléguée auprès de Michel à la petite enfance et aux écoles, a renoncé à sa délégation. Donc, qui cesse à effet du 1er février. Voilà. Ben, est-ce que vous avez d'autres questions particulières ? Donc, je vous donne rendez-vous en particulier le 1er mars à 19h au NEC. Pour les conseillers municipaux, je vous demanderai de vous installer en priorité au premier rang. On verra, bon, je demanderai sans doute à deux d'entre vous de faire circuler les micros dans les travées. L'idée étant qu'on ait à peu près une présentation, si on peut tenir en une heure, ça sera très bien. Et puis à peu près une heure de questions-réponses avec les habitants. Voilà, et puis donc si à 16h30, le même jour, le carnaval sur la place Jean-Baptiste Père à la sortie des écoles. Je vous remercie à tous. Tour dans vos foyers. Merci.